France Musique.
Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel.
Vous aimez Mozart ?
C'est lequel ?
Le dernier.
Peut-être que j'ai pas de pot avec la musique.
T'en fais aussi ?
Moi, plutôt crevé.
Vous voyez pas que c'est un peu réservé à certaines élites ?
France Musique.
La 4 saisons n'est pas qu'une pizza.
Saskia Deville.
Au XIXe siècle, Wagner, Richard Wagner, imaginait déjà l'œuvre d'art de l'avenir. L'œuvre d'art totale qui consiste à réunir les trois sœurs éternelles, à savoir la danse, la musique et la poésie, et ce afin de remplacer l'égoïsme des arts séparés. Cette aspiration tenace à l'insaisissable totalité se retrouve aujourd'hui encore au cœur des préoccupations de certains artistes, et c'est le cas de celui que nous accueillons aujourd'hui. Il se définit comme multiste, c'est-à-dire un artiste qui a fait le choix du non-choix d'un art. Il est tout à la fois auteur, chanteur, compositeur, peintre et poète. Autant dire que s'il avait été forcé de choisir, il se serait peut-être senti comme un avion sans ailes. Bonjour Charles-Élie Couture.
Bonjour.
Bienvenue sur France Musique.
Alors, pardon ? Merci de cette présentation.
Bah avec plaisir. Be an artist, what's it mean ? Être un artiste. Ouais. Vous posez la question dans ce titre, qu'est-ce que cela signifie ?
Être un artiste, c'est veut dire mettre en forme la notion abstraite du sentiment humain. Ça veut dire accepter d'être sous l'effet de ses émotions plutôt que sous la coupe de sa raison. C'est qu'on est souvent subjugué par ce qu'on ressent. Et simplement, à la différence des hypersensibles, hyper émotionnels qui le gardent pour eux, on trouve le moyen de l'exprimer, de le mettre en forme, de
le raconter. Et puis on choisit de se faire confiance aussi.
On a rarement confiance en soi, mais ça change rien qu'il faut le faire. Donc il faut que ça sorte. Je compare ça souvent au sifflet de la cocotte minute, quoi. Tu vois, si c'est des histoires de pression, impression, compression, expression, puis après dépression, puis ça recommence après. C'est des histoires de pression.
Pour notre plus grand plaisir. Vous êtes autant engagé, je le disais, dans la musique que dans l'écriture, dans la peinture. Vous cultivez votre art total. C'est ce qui vous rapproche finalement de Richard Wagner ou de l'opéra en général?
Si on veut, mais ceux qui m'ont inspiré, c'était des gens comme Jean Cocteau, par exemple, Roland Topor, par exemple, ou Andy Warhol. Autour de lui, dans la factory, il y avait plein de gens. Il n'y avait pas seulement des peintres, il y avait aussi des photographes, des acteurs, des poètes. Et c'est vraiment ça qui m'est resté. À ce moment-là, j'avais 14-15 ans et je me disais, être artiste, c'est avant tout assumer ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire sa sensibilité au détriment peut-être quelquefois de sa raison. Parce que on est dans une société de cerveau gauche qui défend coûte que coûte la raison. Il faut réfléchir avant d'agir. Or, le fait d'être artiste, c'est le sens large du terme, le fait d'agir avant de réfléchir. Et une fois qu'on a fait ce qu'on a fait, alors on regarde et puis éventuellement on essaye de comprendre pourquoi on a fait ce qu'on
après
a fait.
Après le coup, oui, oui. S'autoriser à franchir les frontières.
Oui, il y a un autre, de la réflexion, oui, oui.
Exactement, un autre artiste, multiste devrais-je dire, dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est le peintre Victor Hartmann, également créateur de décors de théâtre, architecte. Il est à l'origine d'une œuvre que vous avez choisi de partager avec nous, une œuvre signée Modeste Moussorski.
Thank you.
Limoges, le marché, l'un des tableaux d'une exposition de Modeste Moussorgski.
Mais c'est pas la mise en scène de Ravel.
C'est l'orchestration de Ravel. Vous avez tout à fait raison.
Pour
en parler, vous pensez, j'ai tout prévu.
Ah,
Carlo Maria Giulini à la direction de l'Orchestre Symphonique de Chicago. On imagine bien ici la foule qui déambule, qui se bouscule. C'est vous qui avez choisi ce titre, cette pièce, ces tableaux d'une exposition de Moussorgski, Charles-Élie Couture.
Oui. Oui.
Mais racontez-nous.
Et pour cause, je trouvais justement qu'il y avait une symbiose. Le fait d'essayer de mettre en forme, en onde, les vibrations colorées d'un tableau, c'est un défi. Ça fascine tout le monde. Quand je parle de multisme, en ce qui me concerne, je le vois un peu comme un triathlète, c'est-à-dire quelqu'un qui se donne autant dans l'eau sur sa bicyclette quand il court, mais c'est des activités qui ne sont pas mélangées. Or, ce qui fascine les gens, ce qu'ils m'ont souvent demandé, il n'y aurait pas moyen de mélanger l'un avec l'autre, l'autre dans l'un. J'ai essayé de le faire dans un concert à la Cité de la Musique il y a quelques années, mais c'est un défi un peu complexe parce que chaque émotion, ou plutôt chaque transport, chaque discipline véhicule des choses qui sont pas forcément plus fortes quand on les prend l'un avec l'autre, en même temps que l'autre. Le vert, ça n'est ni le jaune, ni le bleu. C'est l'association des deux. Alors, les mélanges des arts, ça donne ça. Mais je trouvais malgré tout que l'interprétation, le transport qui était fait de quelque chose de vertical en quelque chose de temporel, ce qu'avait fait Moussorgski, était une idée très constructive, si je puis dire, et inventive.
Alors, j'évoquais justement le peintre Victor Hartmann, un peintre décédé brutalement à l'âge de 39 ans. Une exposition est organisée. Modeste Moussorgski assiste à cette exposition et décide effectivement de par son ressenti, de composer ces tableaux d'une exposition. Alors, vous avez très bien souligné, Charles-Élie Couture, que c'est une œuvre qui a été écrite au départ pour le piano.
Oui.
Elle a été orchestrée 50 ans plus tard par Maurice Ravel. Pourquoi j'ai choisi ça? C'est parce que peut-être que
et
cette discipline...
Et pour information, elle avait été reprise aussi par un groupe qui s'appelait Emerson, Lake & Palmer aussi, qui avait fait une version rock de cette musique qui était très intéressante
qui
aussi.
Qui est géniale. Effectivement. Cela dit, des disciplines, hein, vous le dites, qui ont leur univers propre, mais dont le vocabulaire peut être partagé. Musique, peinture, moi je pense aux couleurs orchestrales, évidemment ici apportées dans cette version revisitée par Maurice Ravel,
oui.
Je le disais. Quelles sont les couleurs orchestrales, vous, Charles-Élie Couture, qui vous plaisent?
J'aime l'espace, en fait. Ça va des compositeurs de musique, j'appelle ça les musiques du vide, Steve Reich et compagnie, jusqu'aux musiques. Disons, j'ai souvent, parmi les choses que je vous avais proposées, j'ai pas mal parlé des compositeurs russes de la fin du 19e qui avaient cette espèce d'emphase excitante de vouloir justement jouer avec les instruments des orchestres symphoniques, mais avec le rythme d'une société qui était en train de changer et qui se tournait vers le cinéma, qui se tournait vers... Et du coup, ces compositeurs-là étaient des compositeurs qui donnaient à la musique un aspect visuel. Et c'est ça qui me touche, voilà. Quand justement, en entendant la musique, il y a des images qui défilent dans la tête. C'est ce que j'aime dans Gershwin, c'est ce que j'aime dans Herman, qui a composé les musiques pour les films d'Alfred Hitchcock,
Bernard
Herman, et je peux écouter sa musique sans voir les
images
et les apparaissent. Voilà.
Eh bien, vous allez me dire ce qui vous traverse l'esprit quand vous écoutez ceci.
Thank you.
magnifique, absolue.
Quelle beauté.
Extrême.
Charles-Élie Couture, ultime, à quoi pensez-vous?
Eric Satie. Oh, on pourrait faire une émission quasiment juste sur ce que ça m'inspire
cette
tellement.
Cette gnossienne numéro 1.
Comment?
Cette gnossienne numéro 1.
Oui, gnossienne numéro 1. Les gnossiennes, les gymnospédies, ces valses lentes qui sont remplies de tout. Ce qui est merveilleux dans l'art, c'est que il y a une différence entre le savoir-faire et l'intention. Et la différence avec l'artisanat, c'est souvent ça. C'est qu'on admire une œuvre d'artisanat pour la maîtrise d'une
du
technique.
Savoir-faire.
Alors qu'on va aimer une œuvre d'art pour ce qu'elle suggère souvent. Et en ce qui concerne Eric Satie, ce qui est absolument prodigieux, c'est que avec un minimum d'effet, il pénètre l'entièreté de l'être et au-delà du temps, au-delà de l'époque, justement, parce qu'il n'y a aucune fioriture inutile. Et cette musique est transcendante. Elle passe le cap des générations. Et pourtant, c'est une musique facile entre guillemets, mais admirable justement parce que elle est résumée à son essence. C'est comme les sculptures de Pompon ou certaines de Calder, ou c'est juste émouvant. Quand je parlais tout à l'heure des compositeurs minimalistes, genre Lamont Young ou j'ai cité Steve Reich, c'est pour moi la conséquence de cette intelligence suprême qui était celle de ce personnage à part qui était Eric Satie.
Vous l'avez joué petit, Eric Satie, vous avez commencé le piano tout jeune. Je crois que votre grand-mère était professeure de piano.
Absolument, j'ai commencé, j'allais dire contraint et forcé. C'était un peu l'obligation.
Vous l'avez mal vécu?
J'allais dire jusqu'au décès de ma grand-mère qui pourtant qui m'a fait prendre conscience à quel point la musique faisait partie de moi. Je suis d'une nature un peu rebelle et ce qui fait que plus on m'impose les trucs, moi j'ai envie de le faire. Quand tous les jours il fallait que j'aille faire ma demi-heure de piano, je n'imaginais même pas que je ferais carrière dans la musique. Mais par contre, ma grand-mère qui adorait France Musique et qui écoutait la musique diffusée avec les partitions sur les genoux était quelqu'un qui m'a encouragé à improviser, à jouer pour jouer. C'est certainement elle qui m'a donné le goût pour cette musique française spécifique des années de la fin du 19e, Saint-Saëns ou Gabriel Fauré, Debussy, Satie, tous ces grands compositeurs qui faisaient la beauté de la culture française de la fin du 19e.
Gershwin, Rhapsody in Blue. Vous évoquiez ce compositeur tout à l'heure, Charles-Élie Couture, Gershwin.
Eh ben, tu vois,
ici joué par Yu Jiawang, l'orchestre philharmonique de Vienne, Gustavo Dudamel à la direction. Ah oui, heureuse synthèse de l'esprit populaire américain et puis de la forme, de la tradition européenne plutôt.
Oui, et puis un modernisme assumé. Il a été d'ailleurs un de ceux qui a beaucoup écrit pour le cinéma. Enfin. Il a composé une des œuvres qui est encore aujourd'hui une des plus interprétées avec Summertime, par exemple, qui est tellement, je parlais de l'essentiel dans Satie, mais il y a un peu ça dans Gershwin. Enfin, moi qui habitais à New York pendant une quinzaine d'années, j'entendais Gershwin tous les jours, quoi. Je veux dire, dans la rue.
C'est vrai?
Ah oui, oui. Enfin, quand je dis entendait, c'est-à-dire dans le mélange des klaxons,
des
cuivres, etc., les parfums, cette espèce de mélange qu'on entend là en puissance dans sa musique.
Vous possédiez une galerie à New York, genre les Lee Couture. J'ai entendu dire que vous laissiez la porte ouverte afin que les morceaux que vous diffusiez à l'intérieur soient ce mélange au bruit de la ville.
Absolument.
Ça en faisait partie, cette Rhapsody in Blue.
Oui, régulièrement, j'écoutais j'aimais bien que le vrai se mélange à l'interprété. De même, j'ai pas mal travaillé en peinture sur la relation qui existe entre la photographie et la peinture étant l'interprétation du monde, la photo étant la captation d'une réalité. C'est intéressant, j'avais un de mes profs au Beaux-Arts qui disait « N'oublie jamais qu'un arbre n'est ni gai ni triste, il est comme on le voit ». Alors, il y a d'un côté la réalité, et puis d'autre côté comment on l'interprète. Selon que tu es amoureuse ou triste, eh ben la même journée va sembler ouverte ou fermée.
France Musique, Saskia Deville.
Et parmi les nombreux compositeurs européens qui ont choisi le continent américain, il y a notamment Gustav Mahler, qui déménage en 1907 à New York, où on lui offre le poste de premier chef du Metropolitan Opera. Voici un extrait de sa 5e symphonie en U dièse mineur.
La musique de Moravnise.
Exactement, film de Visconti 1971, ici interprété par Bernard Haitink, l'orchestre du Royal Concertgebouw d'Amsterdam, l'Adagietto, extrait de la 5e symphonie de Gustav Mahler. C'est vous qui l'avez choisi sur les
écouteurs. Je veux. Là, par exemple, c'est une musique qui a inspiré des compositeurs genre Klaus Schulze, par exemple, et tout New Age, quelque part. Il y a, à la différence de Gershwin, qui était sur le rythme et sur l'espèce de tempo excité du jour le jour, là, on a une musique qui s'ouvre sur les Alpes, sur les montagnes, sur le temps, sur la nature.
Enfin, le temps est en quelque sorte suspendu.
C'est ça, une espèce de justement toute la différence qui existe entre ceux qui réfléchissent sur la ville, l'urbanité, et ceux qui réfléchissent sur des choses qui sont plus métaphysiques. Je trouve ça dans Mahler, par exemple.
Et puis vous évoquiez ce film Mort à Venise de Visconti. Vous êtes aussi, vous, Charles Lee Couture, auteur, compositeur d'une vingtaine de musiques de films. Gustav Mahler.
Dont Ciao Pantin, que les gens connaissent.
Absolument. Ouais. Dont Ciao Pantin. Est-ce que ce compositeur, Gustav Mahler, vous a aussi accompagné peut-être pendant l'écriture de certaines bandes originales?
Non, pas directement. La connaissance, c'est pas quelque chose d'utile, entre guillemets. Ça nous permet de nous construire. Une œuvre d'art est une proposition. Et cette proposition, va permettre à chacun de se révéler à lui-même. Qu'il s'agisse d'un livre, qu'il s'agisse d'une musique, une chanson ou un film, tout d'un coup, on va se trouver des accointances avec cette proposition. C'est pour ça que l'art est essentiel. C'est la raison de mon retour sur scène en disant, mais attendez, essentiel. On s'est entendu dire qu'on était non essentiel. Eh ben non, ce qui est essentiel, c'est que justement la diversité soit grande, que les propositions soient nombreuses, et c'est ce qui donne la sensation aux gens d'être heureux quand ils se sont mieux compris eux-mêmes. Voilà, c'est à ça que sert l'art.
Et vous serez effectivement de retour sur scène en compagnie de Karim Atouman en tournée. Les prochaines dates sont à retrouver sur la page de l'émission sur francemusique.fr.
La salle Gaveau.
Salle Gaveau, ce sera le 30 septembre. Voilà, très ça. Exactement. Et d'autres dates avant, un petit peu partout en France et après d'ailleurs. Oui. Merci beaucoup Charles-Élie Couture.
Merci
alors pour toutes
invité.
Ces propositions. On était ravis de vous recevoir. À très bientôt.
Volontiers. Par malheur, il y avait un piano, ils ont joué chacun leur tour. Pauvre piano qui est tout désaccordé. C'est là qu'il frimait avec un morceau classique et ces deux cons qui jouaient de la musique concrète, répétitive, avec deux doigts pendant des heures et des heures sans silence. Et ce maladroit qui a renversé du sirop sur les touches, et pire que tout, ça l'a fait rigoler. Il y avait une fête ici, maintenant ils sont partis, ils étaient tous repartis. La platine tourne encore. Ça fait. Les fêtes s'achèvent comme un feu qui s'éteint. Maintenant j'ai un peu froid, un peu froid.
Après la fête, extrait de ce disque Trésor caché, Perle rare, sorti en 2020, disque de notre invité aujourd'hui, Charles-Élie Couture, en tournée donc dans toute la France. Merci à Éric Lancien, à Pauline Boisaubert et à Romain Lenoir. Merci à vous, chers auditeurs. À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.